France Musique. Musicopolis. Jean Gilles, Toulouse, 1705. La formation de Jean Gilles à la maîtrise de Saint-Sauveur à Aix-en-Provence a été longue et fructueuse, puisqu'il y a passé une quinzaine d'années avant d'être nommé maître de musique. Il a pu profiter aussi à Aix des nombreuses festivités qui entouraient les grandes occasions religieuses exceptionnelles. Son passage de 2 ans ensuite à la cathédrale d'Agde l'a probablement aguerri encore, ce qui lui a permis d'être engagé à composer un motet pour les États généraux du Languedoc de 1697. Remarqué pour cette composition, on lui demande de se présenter à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, où le poste est vacant. Le 18 décembre 1697 a lieu une délibération au chapitre de la cathédrale de Toulouse. Je vous la lis. Monsieur d'Autervine, chancelier, a proposé que tous messieurs viennent entendre la musique que le sieur Gilles vient de faire chanter dans le chœur et qu'il a composée dans la salle du Bourdon, en exécution de la délibération prise sur ce sujet au dernier chapitre. À cause de quoi le sieur Gilles prit la compagnie de vouloir agréer ses services en qualité de maître de musique de cette église, sur quoi, ayant été opiné, il a été délibéré que le dit sieur Gilles ait reçu maître de musique de la chapelle de cette église et que le contrat lui en sera passé, conformément au contrat qui en fut passé au sieur Farinelle, dernier maître de musique. On ne connaît pas les termes exacts du contrat passé par le chapitre de Saint-Étienne de Toulouse avec Jean Gilles lors de son engagement, mais la délibération signale que les conditions étaient les mêmes que pour le précédent maître. C'est la même mention qu'on trouve également sur tous les contrats pour tous les précédents maîtres jusqu'à 50 ans plus tôt, comme quoi les termes ne changeaient pas beaucoup. On apprend dans un contrat de 1644 que le maître de musique doit nourrir un certain nombre de personnes sur ce qu'il reçoit. On dirait aujourd'hui qu'il dispose d'une subvention, partie en argent, partie en nature, blé, pain et vin, grâce à laquelle il entretient sa petite institution. Le contrat de Jean-Gilles comme maître de musique à Toulouse fixe ses divers devoirs. Non seulement son rôle musical, mais aussi les personnes qu'il doit entretenir, à savoir 8 enfants de chœur, plus un supplémentaire en cas de maladie, et 2 adultes. Un sous-maître, capable d'enseigner les enfants à la musique et de chanter sur le livre, et un maître de grammaire, pour enseigner les lettres de grammaire et écriture aux 10 enfants. Le maître doit aussi, nous dit-on, tenir blanc et net les 10 enfants et faire aussi blanchir le linge nécessaire pour l'usage de la dite maîtrise. Enfin, il sera tenu à la fin de cette charge de laisser un livre de messe et magnificat pour servir au chœur. De plus, sera tenu à enseigner à son possible aux 10 enfants la musique et composition d'Icelle et en avoir tel soin qu'un bon maître doit avoir. En plus des enfants de chœur, Jean-Gilles dispose à Toulouse de chanteurs professionnels et de quelques instrumentistes qu'il doit aussi faire répéter et diriger. D'après Norbert Dufourcq, qui a dépouillé toutes les archives de Saint-Étienne, la chapelle de musique assure le chant traditionnel de tout office, messe, heure, vêpres, complis. Elle interprète grégorien, motet polyphonique et parfois musique concertante avec symphonie, c'est-à-dire avec instrument. Thank you. Si certains offices se déroulent en petits comités, avec seulement le chant des mélodies grégoriennes, d'autres sont beaucoup plus fastueux, comme le révèle un historien de la ville de Toulouse. Dans les cérémonies, écrit-il, le chœur de la métropole devait renfermer 97 ecclésiastiques. Et si l'on ajoute à ceux-ci, lorsque l'archevêque était présent, ses 8 grands vicaires, on atteindra le nombre de 105. Et l'on aura une idée de la pompe des cérémonies, de l'aspect imposant que présentait ce chœur, dans les tribunes duquel était placée la chapelle de musique, et où circulaient les bedeaux et les suisses, tandis qu'extérieurement et dans les basses-nefs se pressait une foule pieuse. Odiat gentes risolet, risolet sita. Odiat, odiat celam, jubile terra, jubile terra. À peine Jean-Gilles était-il en place, raconte son biographe l'abbé Bougerel, qu'on reçut ordre de la cour de faire chanter le Te Deum en action de grâce de la paix de Ryswick. Gilles, qui n'avait apporté avec lui que le motet qu'il avait fait chanter aux États, s'enferma le même jour après vêpres dans sa chambre pour travailler à un Te Deum. Il l'acheva dans la nuit et l'exécuta le lendemain avec l'applaudissement de tout le monde. Fin de citation. On peut bien sûr être sceptique sur un tel exploit, puisque non seulement il fallait composer, mais aussi recopier chacune des parties pour les chanteurs et les instrumentistes. Impossible en une nuit. On peut imaginer néanmoins que Gilles est allé très vite et que sa partition a eu grand succès lorsqu'elle a été jouée dans le faste. En présence du Parlement en robe rouge, nous dit-on, de tous les corps ecclésiastiques et laïcs de la ville, les capitouls enveloppés dans leur manteau de cérémonie, tandis que la grosse cloche de Cardaillac sonnait à la volée pendant l'action, selon l'usage. Le Te Deum chanté à Toulouse pour la paix de Ryswick n'a pas été un fait isolé dans la carrière de Jean-Gilles. En effet, à partir de 1701, avec le début de la guerre de succession d'Espagne, chaque victoire des armées royales donnera lieu à une messe avec chant d'un Te Deum. L'occasion pour le musicien de faire entendre son propre Te Deum de nombreuses fois ou d'autres partitions qu'il aurait pu trouver en copie dans la bibliothèque de sa maîtrise. Quoi qu'il en soit, selon Lionel de la Laurency, qui a étudié attentivement la vie musicale à Toulouse à la fin du XVIIe siècle, les cérémonies du culte se déroulaient dans une pompe grandiose, digne de l'antique et glorieuse cité et de l'atmosphère artistique de la ville des Capitouls. Toulouse n'était alors, ajoute-t-il, que poésie et musique. Fête publique, entrée princière, s'environnait d'exécutions musicales. Les Capitouls ne sortaient point sans se faire précéder de leurs trompettes et hautbois, dits ménétriers. Parmi les musiciens qui officient à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, sous les ordres de Jean-Gilles, il y a bien sûr un organiste. Mathieu Lannes y fait toute sa carrière à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe. Il est même apte à remplacer le maître de musique lorsque c'est nécessaire. C'est ainsi qu'il a assuré l'intérim avant l'arrivée de notre musicien. On apprend d'ailleurs que le chapitre prenait le plus grand soin de l'entretien des belles orgues de la tribune. Il donne même 600 livres à un certain sieur Joyeuse de Pézenas pour assurer certaines réparations. Gilles lui-même était organiste, puisque comme tout enfant de chœur, il avait appris les instruments à sa disposition à la maîtrise.
Thank you.
Il est probable que Jean-Gilles joue à l'orgue sa propre musique et qu'il improvise parfois à la tribune de Saint-Étienne lorsque sa charge lui en laisse le loisir. Ça ne devait pas être bien souvent. Il est possible aussi qu'il joue les œuvres de quelques collègues. Les partitions circulent alors, en copie manuscrite le plus souvent, comme cette messe à l'usage des paroisses de son exact contemporain François Couperin, né comme lui en 1668. Mais Couperin est né à Paris et dans une famille de musiciens, organiste titulaire depuis des décennies de l'église Saint-Gervais et Saint-Protais, ce qui fait bien sûr une grande différence dans le déroulement de carrière, à côté d'un enfant du petit peuple éduqué dans une maîtrise de province. Couperin, lui, est déjà connu du roi qui lui commande des œuvres. Puisque nous ne connaissons rien de la personnalité de Jean-Gilles en dehors de sa musique et de la mention de son biographe qu'il décrit comme étant d'un tempérament triste et mélancolique, on ne sait rien non plus de ses goûts. Aimait-il l'opéra par exemple? Il a pu avoir l'occasion d'en entendre, que ce soit à Aix ou à Toulouse, où ce genre assez nouveau en France commence justement à se répandre. En tout cas, on lit dans les délibérations du chapitre de Saint-Étienne qu'il ait fait défense aux enfants et aux chanteurs d'aller assister ou chanter à l'opéra, et à l'inverse, qu'il ait fait défense aux maîtres de musique d'inviter des chanteurs de l'opéra, et plus encore des chanteuses, à venir se produire à l'église. Ce qui montre bien que la tentation était grande pour les musiciens et que la musique religieuse évoluait dans un sens que l'église réprouvait. Un extrait du troisième acte d'Armide de Jean-Baptiste Lully avec le Collegium Vocale et la Chapelle Royale, John Hancock's baryton sous la direction de Philippe Hervègue. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe se composait aujourd'hui de Delphine Baudet, Adèle Moll, Philippe Demenou et Béatrice Trichet.
À réécouter sur francemusique.fr.